une histoire particulière. C'est la cloche la plus célèbre de Notre-Dame de Paris, le doyen des Bourdons, Emmanuel. Hier, Alain Lefkovitch et Marie Placé vous ont raconté l'histoire de ce bourdon de légende, classé monument historique le 24 juillet 1944. La plus lourde et la plus massive des cloches de Notre-Dame, avec ses 13 tonnes. C'est aussi la deuxième plus grosse cloche de France, après la savoyarde du campanile de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Depuis 2014, Emmanuel a été restauré et porte un nouveau battant, près de 500 kg d'acier doux. Beaucoup plus léger, mais non moins précieux, voire sacré, voici l'histoire du second trésor sauvé lors de l'incendie du 15 avril 2019.
Notre-Dame de Paris, la cloche et la couronne, Euphorbia Mili, les épines d'une couronne royale, celle du roi des Juifs, par Alain Lefkovitch et Marie Placé.
Soyez les bienvenus à Saint-Germain-l'Auxerrois pour ce temps de la vénération de la Sainte Couronne d'épines.
Certains se sentent peut-être loin du Seigneur, mais pourtant le berger nous connaît.
Si le berger nous connaît, nous c'est la couronne que l'on connaît mieux. Enfin, ce qu'il en reste. Elle serait liée justement à la passion de ce berger qui prétend tous nous connaître. Elle nous viendrait de la nuit des temps, au moins du 4e siècle de notre ère. Une tresse de jonc marin, la plus insigne des reliques du monde chrétien que Louis IX, le célèbre Saint Louis, va acheter une vraie fortune puisque la moitié du budget de son royaume va y passer. Avec cette sainte couronne, Dieu fait son entrée dans l'histoire. Depuis, elle est gardée par les membres de l'ordre des chevaliers du Saint-Sépulcre. Sauvée des flammes le 15 avril 2019, lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, elle est désormais à l'abri dans une annexe de la cathédrale, l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. C'est désormais là, en face du Louvre, que Mgr Patrick Chauvet, recteur de la mondialement connue NDDP, officie.
Ici, vous êtes à Saint-Germain-l'Auxerrois, qui est une très belle église de Paris, qui est en face du Louvre. C'est l'église royale, c'est là où le roi, quand il habitait le Louvre, qui venait prier. Et donc, la liturgie cathédrale s'est installée ici, en attendant naturellement la réouverture de Notre-Dame de Paris. C'est la paroisse du séminaire de Paris. Donc c'était important aussi qu'il y ait un lien très fort entre le séminaire Notre-Dame et Notre-Dame de Paris. C'est pour ça qu'on a amené aussi la Vierge du Pilier qui est installée dans le cœur à Saint-Germain-l'Auxerrois.
Alors, il y a une pièce aussi importante du musée, en tout cas du trésor de Notre-Dame qui est ici.
Oui, naturellement, il y a la couronne d'épines. Elle a été pendant un certain temps au Louvre, hein, juste en face, et puis nous avons eu pour le temps d'installer des coffres sécurisés, et elle est ici effectivement dans la situation sanitaire. C'est pas très facile de la vénérer, donc pour l'instant, elle attend comme nous. C'est une icône, hein. C'est pour les orthodoxes qui viennent beaucoup à la vénération de la couronne, c'est vraiment une icône. Elle représente les souffrances du Christ sur la croix, donc le mystère de la rédemption. Nous sommes sauvés par le Christ et la couronne est là pour nous montrer à la fois les souffrances du Christ pour chacun d'entre nous, mais plus que les souffrances, la couronne est le signe de l'amour. Voilà, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Alors c'est vrai que j'ai reçu il n'y a pas longtemps une lettre d'un curé, un vieux curé, qui me dit « Mais vous faites croire qu'elle est authentique ». Je dis « Je vais croire rien du tout ». Je dis simplement que c'est la tradition, la piété populaire aussi. J'ai toujours été étonné de voir la ferveur quand on sort la couronne, les gens qui arrivent, des petits, des grands, mais qui se mettent à pleurer, qui vraiment sont touchés par la présence. Voilà. Je crois que cette relique, elle est forte d'une présence, qui est celle peut-être du Christ, j'espère. En tout cas, je voyais à Notre-Dame, quand on sortait la couronne, c'était le silence. Et croyez-moi, pour obtenir le silence dans Notre-Dame à 15 heures, c'est très difficile. Mais dès qu'on la sortait, Voilà, les gens étaient se demandaient ce que c'était. Les chrétiens voyaient un peu la couronne, ils étaient stupéfaits. Voilà, moi je n'ai pas besoin effectivement de la couronne d'épines pour me rendre compte de la profondeur de l'amour de Dieu, mais je comprends qu'on ait besoin d'avoir des signes. Vous savez, on est une religion de l'incarnation. On prie avec les pieds, ce sont les pèlerinages, mais on prie aussi avec les yeux, on prie avec les mains, et donc on aime toucher, on aime voir. C'est au fond dans Saint Jean, pareil, dans la première lettre de Saint Jean, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu. Nous avons touché le Verbe de vie. Eh bien, nous aussi, on veut toucher le Verbe de vie. Comme à la messe, on veut voir. Hein, on veut voir. Eh bien, quand on sort la couronne, on veut la voir. Madame Trump est venue et elle a pleuré. Donc j'imagine qu'elle a été touchée par la grâce, mais il y a des grands aussi, d'autres grands qui ont été touchés par cette présence.
Il revient aux chevaliers du Saint-Sépulcre d'être les auxiliaires du chapitre de la cathédrale pour garder les reliques de la Passion.
Renaud de Villelongue, chevalier de l'ordre du Saint-Sépulcre.
La tradition de l'ordre du Saint-Sépulcre, c'est forcément le Saint-Sépulcre de Jérusalem, une longue tradition qui remonte au Moyen-Âge, époque au cours de laquelle des chevaliers se faisaient adouber sur le Saint-Sépulcre. Ils revenaient en France et on a constitué progressivement un ordre du Saint-Sépulcre qui a été transformé en France en archiconfrérie du Saint-Sépulcre. Et au moment où le pape Pie IX a reconstitué le patriarcat latin de Jérusalem, il a reconstitué aussi l'ordre du Saint-Sépulcre et a demandé à l'ordre du Saint-Sépulcre de venir en aide spirituellement et matériellement au patriarcat latin de Jérusalem. Donc cette longue tradition fait que le Saint-Sépulcre a eu parmi ses missions la garde des reliques de la Passion. Ces reliques de la Passion, c'est d'abord la tresse de la couronne d'épines, car il ne nous reste plus que la tresse, un clou de la Passion et un des plus gros morceaux de la croix sur lequel le Christ a été crucifié. Il ne reste actuellement dans le trésor de la cathédrale Notre-Dame de Paris que la tresse, qui est une tresse de jonc marin de 21 cm de diamètre, sur laquelle étaient plantées des petites branches sur lesquelles il y avait des épines. Car on dénombre à peu près 70 épines qui ont été distribuées au cours des siècles par les empereurs de Constantinople et par le roi de France. C'est une plante que l'on retrouve en Terre Sainte et qu'on appelle les spina Christi, les épines du Christ. C'est un petit arbuste de Terre Sainte qui a été certainement utilisé à l'époque pour ses branches qui comportaient des épines, d'être placées sur cette tresse de jonc pour en faire un casque. Car cette couronne d'épines du Christ, contrairement à ce que l'on peut penser, n'est pas une couronne habituelle, c'est en fait un casque. Pourquoi un casque ? Parce que ça fait référence, si vous voulez, aux coiffures qui avaient les chefs dans l'Ancien Testament, et d'ailleurs partout dans le monde. Pour reconnaître le chef, il était obligé d'avoir un couvre-chef, et ce couvre-chef, en fait, était un casque.
La passion de Jésus-Christ, la passion.
Bon, et là, c'est l'insigne relique, parce que tout de même, sur la couronne d'épines, on a le récit des évangiles.
Jean-Pierre Cartier, cérémoniaire de la cathédrale.
C'est quelque chose qui est directement lié à la passion du Christ. Donc c'est ce qu'on appelle la plus insigne des reliques de l'ensemble du monde chrétien. C'est pour ça qu'au cours de l'histoire, eh bien, cette relique a toujours été gardée et protégée, car elle était l'objet de bien des convoitises. Je parle des convoitises des souverains. Ce n'est pas pour rien que Saint Louis l'a acquise. Lorsque Saint-Louis fait l'acquisition de la couronne d'épines, après la quatrième croisade, c'est 1204, les croisés d'Occident ont mis à sac une ville chrétienne qui était donc Constantinople, mais qui était séparée de Rome depuis le XIe siècle. À un moment donné, on a craint que la couronne d'épines ne fût simplement vendue comme une marchandise à des marchands pour simplement renflouer les caisses de cet empire latin de Constantinople. C'est la raison pour laquelle Saint-Louis est intervenu, parce qu'il ne voulait pas que cette relique insigne devienne tout simplement un objet mercantile. Et c'est la raison pour laquelle il s'est porté acquéreur de cette couronne d'épines auprès de l'empereur Baudouin II de Constantinople en 1238, et que cette couronne a été transférée ensuite en 1239 dans son royaume. Alors, il y avait là, d'une part, ce geste très religieux, très pieux, de préserver donc la couronne d'épines de toutes les tractations mercantiles qui pouvaient exister. Mais pour Saint-Louis, il s'agissait également, je dirais, au sens noble du terme, d'un enjeu politique. Parce que, en acquérant, en se rendant propriétaire, en quelque sorte, de la couronne d'épines, et de le ramener dans la chapelle de son palais de la cité, il faisait de Paris le lieu où se trouvait la plus insigne de toutes les reliques de la chrétienté. Et en plus, il va y avoir une sorte d'assimilation entre la couronne d'épines et la couronne de France. Puisque au moment du jugement dernier, lorsque le Christ reviendra, il viendra prendre sa couronne pour montrer son empire, sa domination sur l'ensemble du monde. Or, la couronne est à la Sainte-Chapelle.
Saint-Louis a acheté cette couronne d'épines, une somme considérable, parce que
Renaud de Villelongue.
Cette somme dépensée correspondait à la moitié du budget du royaume à l'époque. Il l'a fait venir à Paris, et là, aux portes de Paris, il a été l'accueillir pieds nus avec ses fils. Et le roi Saint-Louis a voulu l'entourer d'honneurs particuliers. Et Saint-Louis a fait construire un reliquaire pour cette insigne relique qui est la Sainte-Chapelle. Et en faisant construire la Sainte-Chapelle, qui a été érigée en un peu moins de 5 ans, le roi Saint-Louis a dépensé aussi la moitié du budget de l'État. Donc vous voyez que le roi de France n'a pas lésiné. Mais on sait aussi pourquoi.
La possession de la couronne d'épines par les rois de France a donné à ces rois de France,
Jean-Pierre Cartier,
une place à part parmi tous les rois. Ça vient d'une tradition du Moyen-Âge, tradition française, hein, du Moyen-Âge, où on avait développé l'idée que le peuple franc était le nouvel Israël, qu'il était le nouveau peuple élu par Dieu parmi tous les peuples pour être le gardien, si vous voulez, de la foi chrétienne. Et ça, on le trouvait dans toutes les oraisons du sacre des rois, où le roi était célébré comme le nouveau David et où on proclamait cette élection, en quelque sorte, donc du peuple franc qui lui donnait une place particulière parmi tous les autres peuples chrétiens de l'Europe. Mais ça, c'était une vision développée par les rois de France pour assurer leur suprématie.
Cette couronne d'épines a été gardée jusqu'à la Révolution à la Sainte-Chapelle. Et quand les signes de révolution sont arrivés, Louis XVI a envoyé son carrosse personnel pour aller chercher cette couronne d'épines et la mettre à l'abri à l'abbaye de Saint-Denis, en terre royale. Alors malheureusement, les révolutionnaires sont arrivés à l'abbaye de Saint-Denis, ont mis la main naturellement sur cette couronne d'épines, parce que cette couronne d'épines était à l'intérieur d'un reliquaire magnifique, fait d'or, d'argent, serti de pierres précieuses. Et donc les révolutionnaires l'ont envoyée à l'hôtel de la Monnaie, où elle a été dépecée de toutes ces pierres précieuses, de cet or, de cet argent. Et ce qui restait de la couronne d'épines a été mis dans une boîte en carton et envoyé à la Bibliothèque nationale. Bon, la Révolution s'est terminée. Vous savez que Bonaparte a pris le dessus. Il a demandé que la couronne d'épines soit rendue à l'Église. Et donc, en 1804, cette couronne d'épines a été rendue à l'Église en signe d'apaisement, de réconciliation entre l'Église et l'État. Et donc, la couronne d'épines s'est retrouvée, par le fait, dans le trésor de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. On ne sait pas, si vous voulez, très bien si elle appartient à l'État ou si elle appartient à l'Église. Toujours est-il que c'est un bien national, puisqu'au fond, cette couronne est liée à la constitution de la France et à toute l'histoire de France.
L'Église a eu à un moment donné un souci de présenter des reliques. Et ça, ça a été un choix délibéré d'affirmer l'insertion du catholicisme dans l'histoire. Le catholicisme est une religion incarnée, c'est-à-dire que c'est l'insertion de Dieu dans l'histoire des hommes. Et quand les gens vénèrent cette couronne d'épines, eh bien, ils se rapportent forcément à l'incarnation. Parce que le christianisme n'est pas un catalogue de réflexions philosophiques ou de systèmes idéologiques, non, pas du tout. Donc, c'est fait de chair et de sang, je dirais. Et cette chair et ce sang, c'est celui donc du Christ Jésus, de notre Seigneur, au moment de la Passion.
Aujourd'hui, c'est la Pâque. Et comme à chaque Pâque, je vous libère un condamné. Lequel des deux voulez-vous que je relâche ? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ ? Mais qu'a-t-il fait de mal ? Je déclare être innocent du sang de ce juste. Faites-en votre affaire.
Salut au roi des Juifs !
Vous écouterez avec les oreilles, mais vous n'entendrez point. Vous verrez avec les yeux, mais vous ne comprendrez point. Parce que le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et ils ont durci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, pour ne pas voir avec leurs yeux, pour ne pas entendre avec leurs oreilles.
Aujourd'hui, on a une couronne, on a un jonc tressé, qui est en plusieurs morceaux, qui est donc un élément, un seul élément de la couronne d'épines. Les épines ont toutes disparu. Or, à l'origine, il y avait à peu près toutes les épines. Si les épines ont disparu, c'est que depuis l'origine, c'est-à-dire depuis Jérusalem, des épines de la couronne ont été offertes, souvent beaucoup aux empereurs byzantins, avant que la couronne ne revienne à Constantinople. Cela s'est fait vers le Xe siècle, mais ensuite, ces empereurs byzantins offraient des épines à de grands personnages, à des évêques, à des abbés de grands monastères. Alors, certaines de ces épines, par exemple, on les a suivies, elles se sont répandues à peu près dans tout le monde chrétien, et on a tout donné, puisque, en fin de compte, au début du XVIIe siècle, il en restait, je crois, 3 ou 4 sous le règne d'Henri IV, qui ensuite ont été donnés au moment de la Révolution française. On est en 1791, j'insiste là-dessus. Cette couronne a encore telle force spirituelle qu'au moment où on la transfère de la Sainte-Chapelle à l'abbaye de Saint-Denis, on fait une soustraction de quelques membres de jonc pour donner encore à une église vénérable.
Le rôle des reliques, il est tout à fait essentiel. Vous savez,
Marie-Yvonne de Saint-Pulgent.
La relique est un objet de pèlerinage, un objet de dévotion.
Musicienne, haut fonctionnaire et ancienne directrice du patrimoine.
C'est un élément, un reste, effectivement, d'un élément de l'histoire religieuse. Alors, c'est le Christ, la Vierge, les apôtres et les saints. Toute chose ayant appartenu, voire un élément du corps du saint, hein, puisque beaucoup de reliques sont des restes humains. Hein. C'est pas le cas de la Sainte Couronne, mais dans le cas du Christ, les éléments du bois de la croix, vous avez les vêtements qu'il portait, vous avez donc la couronne d'épines, mais vous pouvez avoir, par exemple, une des grandes reliques françaises, qui est la Sainte Foix de Conques. C'est un bout d'os, hein, voilà. Et donc, pendant très longtemps et très tôt, ces reliques ont représenté une valeur à la fois de croyance, mais aussi d'attractivité pour les lieux qui les concernent. Parce que quand vous avez une relique dans votre sanctuaire, vous pouvez attirer des pèlerins. Et si vous attirez des pèlerins, vous avez aussi des dons. Et donc, vous enrichissez le sanctuaire. Donc la compétition pour les reliques est absolument farouche entre les différents ordres religieux, les différents lieux saints, les abbayes par rapport aux églises, et les cathédrales par rapport aux abbayes, et d'où le fait que d'ailleurs la rivalité entre la Sainte-Chapelle et Notre-Dame, parce que Notre-Dame, contrairement à beaucoup d'autres grands lieux saints, grands sanctuaires connus, n'avait pas un trésor de reliques exceptionnel, alors que la couronne, cette couronne avait évidemment une immense valeur aux yeux du peuple chrétien.
Il y a des miracles qui sont liés à la relique de la couronne d'épines.
Jean-Pierre Cartier.
La plus connue, peut-être, est celle de Marguerite Perrier, qui était la nièce de Blaise Pascal et qui a été guérie miraculeusement d'une infirmité extrêmement grande à l'œil, donc par cette couronne d'épines en la touchant. Parmi les épines, j'ai oublié ça tout à l'heure, comme parmi les épines, il y en a eu une qui est partie vers l'Écosse, qui avait été acquise par un roi d'Écosse, à l'époque où l'Écosse était catholique, avant la Réforme. Et vous savez tous que Marie Stuart a été reine d'Écosse, des reines de France et reine d'Écosse. Elle a eu des soucis en Écosse, ça s'est pas très bien passé, son règne en raison de ses conflits avec sa cousine Élisabeth Tudor. Mais, comme elle était reine d'Écosse, elle portait cette épine de la couronne d'épines sur elle. Et on raconte qu'elle la portait au moment où elle est montée sur l'échafaud pour avoir la tête tranchée.
Il n'y a pas eu de miracle.
Non, il n'y a pas eu de miracle. Je ne sais pas. Parce que peut-être le miracle, c'est qu'elle est entrée tout de suite dans la joie du Père, dans le paradis. Directement.
C'est un symbole, c'est devenu un symbole, si vous voulez. La foi des fidèles aujourd'hui s'accommode très bien de l'idée, chez les plus informés d'entre eux, qu'il ne s'agit pas de la vraie couronne. Peu importe. Elle symbolise la couronne. Et la foi, la symbole est aussi important que la réalité physique. Et encore une fois, le raisonnement, est-ce que c'est la vraie, est-ce que c'est pas la vraie, peu importe, c'est l'objet, c'est la relique qui permet de commémorer et d'adorer un élément essentiel de la religion catholique, qui est, la religion chrétienne en général d'ailleurs, chez les protestants aussi, on se met l'idée, qui est le sacrifice du Christ pour sauver le monde. C'est comme ça que est interprétée la mort du Christ. Et cette couronne qui représente la dérision des autorités de l'époque, Jérusalem, sur la prétention du Christ à être le roi des Juifs, hein, qui est une mésinterprétation de la parole du Christ, qui n'est jamais prétendu à une royauté temporelle, je dirais, en tout cas d'après les textes, hein, d'après les textes qui nous sont parvenus, symbolise bien, encore une fois, dont c'est très important dans l'esprit chrétien, cette représentation du Christ qui accepte de mourir pour sauver le monde. Voilà. Et en plus, dans une position d'humiliation, qu'il accepte aussi. Voilà, avec difficulté, mais qu'il accepte aussi. Donc, c'est ça que représente la Sainte Couronne.
La continuité dans l'histoire de la vénération de la couronne d'épines, ou des reliques, quelles qu'elles soient, ne sont pas le signe, forcément, de leur authenticité. Mais ils sont le signe de quelque chose que les gens reçoivent en venant, n'est-ce pas, vénérer cette couronne d'épines. Parce que il y a un trou entre la Passion et en gros le IVe siècle, où là, on n'a pas de traces historiques de ces antiques reliques qui sont liées aux personnages de l'Évangile. Ce que l'on peut dire et qu'on peut affirmer, je crois, sans aucun doute, c'est que les restes de la couronne d'épines que l'on peut aujourd'hui vénérer et observer lorsqu'elle est présentée aux fidèles sont bien la même couronne que celle dont on a parlé à partir du 5e siècle et qui était déjà offerte au 5e siècle à la vénération des fidèles alors qu'elle se trouvait à Jérusalem. Voilà.
Pourquoi vénérer la couronne d'épines ? D'abord, il n'y en a pas d'autres dans le monde qu'on dit avoir été porté par le Christ. Et les morceaux de la vraie croix, il y en a qui sont vrais, probablement, mais d'autres qui sont faux aussi. Mais vous savez qu'au Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelait les reliques contact. Donc il suffisait de prendre un morceau de bois et d'aller toucher un morceau de bois venant de la vraie croix, ça devenait une vraie relique. Bon, en ce qui concerne la couronne d'épines, il n'y en a qu'une qu'on dit avoir été portée par le Christ. Bon. Alors c'est déjà, je dirais, une bonne raison. Une deuxième raison, c'est que, si vous voulez, pour croire, l'homme a besoin de prier. Et pour soutenir sa prière, l'homme a besoin de choses concrètes. Eh bien, cette couronne d'épines est une chose concrète, c'est un témoignage des souffrances du Christ et de tout ce qu'il y a derrière les souffrances du Christ, car derrière ces souffrances, il y a la résurrection, et derrière la résurrection, il y a notre propre résurrection. On n'aura jamais la certitude. D'ailleurs, j'ajouterais que si on avait la certitude, quel serait le mérite de croire ?
Merci à Patrick Chauvet, Renaud de Villelongue, Jean-Pierre Cartier, André Finot et Marie-Vonne de Saint-Pulgent. Notre-Dame de Paris, la cloche et la couronne, Euphorbia Mili, les épines d'une couronne royale, celle du roi des Juifs, réalisation Marie Placet, mixage Manuel Couturier, coordination Christine Bernard et Sylvia Fabre, une histoire particulière d'Alain Lefkovitch.
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous parlerons d'un marchand d'art américain. Mais c'est une autre histoire.